1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons apprendre à éviter quelques pièges dans lesquels on peut tomber en appliquant le modèle gravitaire. En effet, entre la théorie et la pratique, il y a souvent quelques détails à connaître et le diable se niche dans les détails, comme vous savez. Les erreurs qui sont commises le plus fréquemment concernent la puissance explicative qu'on peut attribuer à ce modèle. Certaines autres fréquentes également concernent les interprétations données aux paramètres et puis aussi les discours qu'il est possible de produire au vu des résultats. Considérons la puissance explicative du modèle gravitaire. Entendons-nous bien, c'est une explication au sens statistique du terme. C'est une valeur de prédiction et pas une valeur de compréhension. On la mesure en général par une qualité d'ajustement, un coefficient de détermination qui représente la part de variance, c'est-à-dire des inégalités des flux échangés observés, qui peut être décrite uniquement à partir de l'équation du modèle avec donc le produit des masses et la distance. Eh bien, cette puissance explicative du modèle gravitaire, en général, on découvre qu'elle représente les trois quarts, parfois même davantage, de la variance donc des inégalités des flux analysés. Et c'est pour cela que ce modèle représente la première loi de la géographie, c'est de loin le modèle statistiquement le plus puissant dont on dispose. Néanmoins, lorsque nous avons mis en œuvre les ajustements statistiques de notre tableau d'échange avec une régression linéaire simple, nous avons, rappelez-vous, simplifié l'équation du modèle gravitaire en faisant passer dans le membre de gauche le produit des masses pour le mettre au dénominateur sous les flux et donc obtenir une fonction linéaire de la distance. Or, ce faisant, nous avons donc enlevé de l'explication statistique l'effet des masses et il ne nous reste plus que l'effet de la distance. Donc, il n'est pas étonnant de retrouver dans ce cas-là des modèles qui ont des coefficients de détermination de 20-30% de variance expliquée. Cela ne signifie pas que le modèle gravitaire n'est pas opérant, mais simplement que par la petite manipulation qu'on a effectuée sur l'équation, on s'est enlevé un petit peu de sa puissance explicative. Il y a bien entendu une solution qui est de ne pas simplifier le modèle avant de le soumettre à cette procédure d'ajustement. Et donc, si on transforme en logarithme directement l'expression des flux, on obtient un logarithme de produit qui est une somme de logarithmes avec chacune des masses des lieux origine et destination et le logarithme de la distance parmi donc les variables explicatives. Or, lorsque nous utilisons cette équation, nous avons parfois quelques difficultés d'interprétation parce que le modèle correspondant impliquerait qu'il y ait aussi des exposants sur les masses de I et de J. Quelquefois, cela peut rendre service. Par exemple, si on veut moduler la capacité d'attraction d'un lieu en fonction de l'importance de ses surfaces commerciales, il peut se faire que le paramètre qui servira d'exposant à cette masse-là prenne du sens statistiquement. Mais souvent, c'est assez difficile, notamment s'il s'agit de populations, de décider en vertu de quoi l'une aurait plus de propension à se déplacer qu'une autre, s'agissant en principe de populations placées dans des conditions homogènes. L'interprétation des paramètres, notamment celui qui mesure l'effet dissuasif de la distance, doit être effectuée avec une grande précaution, en particulier on ne peut utiliser cette valeur du paramètre en comparaison que si le maillage, si le découpage de la zone géographique qu'on étudie est resté le même. En effet, ce paramètre A peut varier et de manière systématique avec la finesse du découpage de la zone étudiée. Voici un exemple qui a été illustré pour la Belgique par le démographe Michel Poulain, qui a fait varier le regroupement des zones en nombre de subdivisions plus ou moins importants. Et vous voyez que la valeur du paramètre A, qui est ici portée en ordonnée du graphique, varie assez systématiquement. Elle a tendance à diminuer avec lorsque le nombre de zones considérées est plus grand. Vous avez deux droites qui encadrent la droite du milieu et qui représentent des écarts d'un écart type. Vous voyez que la variabilité de l'estimation du paramètre diminue beaucoup lorsque le nombre de zones devient suffisamment grand. Néanmoins, nous ne pourrons pas comparer l'effet dissuasif de la distance si nous avons une dizaine de zones ou si nous en avons une centaine. D'ailleurs, il est clair que l'autre paramètre, le paramètre K, varie également en fonction de ce découpage géographique. Nous en avons là une démonstration empirique avec ce graphique qui représente les résultats des recensements de population français et qui mesure le taux de mobilité des populations selon qu'il s'agit d'un changement de logement, c'est la courbe du haut, ou d'un changement de commune un peu plus bas, ou d'un changement de département, ou d'un changement de région. Vous voyez que de manière très significative, le taux de mobilité global qu'on mesure à chacun de ces échelons géographiques diminue fortement lorsque on augmente la taille des zones considérées. Et cet effet du maillage sur la mesure de la mobilité se comprend bien sur un petit exemple fictif. On va considérer quatre carreaux de 50 habitants chacun et qui échangent 10 personnes en 12 flux interzones, ce qui nous donnerait un taux de mobilité de 60%. Si nous réunissons les deux carrés du haut pour former un seul rectangle et les deux carreaux du bas pour en former un autre, nous n'avons donc plus que deux zones. Et dans ces deux zones, nous n'avons pas perdu d'habitants, il y en a toujours 100 dans chacune, mais nous n'avons plus que deux flux entre ces deux zones qui sont de 40 personnes chacune, ce qui nous fait un taux de mobilité de 40%. Et cela s'explique bien sûr puisque nous avons perdu les flux à l'intérieur de chacune des grandes zones ainsi constituées. D'une manière encore plus générale, on a pu mettre en évidence, c'est le démographe Daniel Courgeot qui a fait ce travail, de mesure des taux de mobilité des populations évaluées dans différents maillages, et cela pour différents pays. Et systématiquement, quel que soit le pays, découpé, comme c'est le cas ici en France, en régions, départements, communes, nous avons une progression du taux de mobilité qui varie comme le logarithme du nombre d'émailles du découpage géographique. Plus il y a de mailles, plus le découpage est fin et plus le taux de mobilité est important. Donc, nous pouvons en revanche, lorsque nous disposons du même maillage, nous pouvons alors comparer les flux, par exemple dans le temps, à deux recensements différents pour des départements ou pour un ensemble de communes. Nous pouvons également comparer les valeurs des paramètres A obtenus pour des sous-populations dont les échanges sont observés dans le même maillage. Et c'est le cas ici pour les migrations interrégionales en France par catégorie d'âge. Nous avons des paramètres A de la fonction puissance, représentant le modèle gravitaire, qui, vous le voyez, ont des valeurs plus élevées pour les populations jeunes que pour les populations âgées, qui peuvent se déplacer à plus longue distance, en étant moins sensibles donc à la proximité. Et si nous travaillons avec un modèle qui prend une formule exponentielle pour mesurer le rôle de la distance, eh bien, nous voyons que les valeurs de ce paramètre, dont les ordres de grandeur sont très différents, varient de la même manière pour ranger les classes d'âge par ordre d'importance décroissante de l'impact de la distance pour freiner, réduire les migrations. Les valeurs des paramètres que nous avons ainsi calculées, je le rappelle, elles sont issues d'un ensemble homogène et elles valent pour tout l'espace sur lequel nous avons mesuré des flux. Donc il est hors de question de pouvoir les utiliser pour caractériser les échanges entre seulement deux zones. Le modèle gravitaire, c'est un modèle qui est défini pour l'ensemble de la zone étudiée et donc les paramètres valent. Ils sont estimés à partir de l'ensemble des échanges et ils ne peuvent pas permettre de s'intéresser plus particulièrement aux échanges entre deux zones. Nous verrons par la suite qu'il est possible, en revanche, de l'utiliser comme un filtre pour mettre en évidence les spécificités des différents lieux.